Genève. Côté. Nature.
Bonsoir tout le monde et bienvenue comme chaque semaine à votre émission Genève Côté Nature. Je m'appelle Virginia et je suis accompagnée de ma sœur Émilie.
Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un côté astuce. Les émissions de cette rubrique sont, comme toujours, une façon pour nous de vous donner des conseils ou des trucs pour éventuellement, si le cœur vous en dit, changer vos habitudes quotidiennes et ainsi vivre plus en accord avec la nature qui nous entoure.
Avoir une vie parfaitement écolo, ce n'est pas facile et on s'en rend bien compte. Nous-mêmes, nous ne sommes pas exempts de contradictions. Nous essayons de faire du vélo, mais une fois par semaine, nous prenons la voiture parce que notre destination est trop loin pour y aller autrement.
Nous prônons le recyclage et l'utilisation à long terme des objets du quotidien, mais nous avons quand même des ordinateurs et des téléphones portables qui ont une durée de vie limitée.
Nous blâmons les microplastiques et la pollution textile, mais nous avons tout de même dans nos armoires quelques vêtements synthétiques.
Encore une fois, dans la lutte contre la destruction de notre planète, nous pensons qu'il faut agir, pour sûr, mais qu'il faut agir en fonction de l'envie et des moyens de chacun. Et surtout, surtout, il ne faut pas fustiger les gens qui n'arrivent pas à avoir les mêmes résultats que nous. Les gens qui ont des limites qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas franchir. Des gens pour qui la nature est importante, mais qui ne sont pas prêts à faire les mêmes sacrifices que nous. Chacun va à son rythme et dans la mesure de ses capacités.
Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'aller voir d'autres personnes qui ont réussi à modifier des aspects de leur quotidien pour être en accord avec leur éthique et leur façon de penser. Nous vous présentons donc en premier lieu Fiona, qui, avec son mari, habite à Morges. Alors bonjour Fiona, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ?
Oui, bonjour. Alors voilà, je m'appelle Fiona, j'habite à Morges avec mon mari, je suis psychologue, je travaille à Lausanne. Tous les jours, je prends les transports pour aller au travail. Et puis ça fait maintenant 8 ans qu'on habite ici.
D'accord. Alors nous, on se connaît depuis de nombreuses années, hein. On se connaît depuis l'adolescence. On a maintenant un peu la même conscience écologique, le même souci quant à l'avenir de notre planète, mais ça n'a pas forcément toujours été le cas dans ta famille. D'où est venue cette envie de vivre en fait en accord avec la nature ?
Je pense que ça vient principalement du fait d'avoir découvert la nature, d'avoir pu l'observer, d'avoir eu la chance de la découvrir aussi avec toi sur différents continents. Ça m'a donné envie de la protéger le plus possible. Et puis, je pense que la génération de nos parents, je pense qu'ils n'ont pas grandi avec cette idée que les ressources ne sont pas infinies. Mmh. Qu'il faut faire attention, que tout ce qu'on consomme a un impact, que tout ce qu'on fait a des conséquences. La génération de nos parents, ils ont grandi, voilà, c'est la génération baby-boom, c'était l'abondance, il y avait peu de chômage, tout le monde pouvait consommer à outrance, c'était... Voilà, le début des importations internationales aussi, tout ça. Je pense que nous, on a grandi justement vers la fin de notre adolescence. On a commencé à vraiment prendre conscience de ce qui se passe et puis de toute cette surconsommation qu'il y a autour de nous. Et voilà, je pense que je me suis aussi beaucoup renseignée à ce moment-là. Mm-hmm. Mais on a commencé à en parler dans les médias aussi de plus en plus.
Ouais, tout à fait.
Je pense que c'est un peu une combinaison de tout ça.
D'accord, eh ben très bien. Et alors maintenant, dans ton quotidien, quels sont les côtés les plus écolos que tu as ? Est-ce que c'est du côté de la nourriture ou au niveau des habitudes ou des transports dont tu as déjà parlé ?
Je dirais que c'est un petit peu dans différents domaines. En fait, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, notre changement dans notre manière de consommer. C'est quelque chose qui s'est fait, voilà, je disais, ça fait 8 ans qu'on habite ici, je pense que ça fait 8 ans qu'on fait des changements.
Ouais.
On a procédé petit bout par petit bout. Je crois qu'on s'est organisé en fait pièce par pièce dans la maison. On a commencé, je crois, dans la salle de bain, par les cosmétiques, d'essayer de consommer des cosmétiques bio qui venaient avec moins d'emballage, acheter des contenants plus grands, ce qui veut dire qu'on en achète moins souvent. Aussi acheter, bah, par exemple, pour la lessive, acheter de la lessive en vrac. Du coup, on n'achète plus les contenants pour la lessive, donc moins de plastique. Donc, on a beaucoup réduit le plastique à ce niveau-là. Les brosses à dents sont maintenant en bambou, etc., etc. Donc, je crois d'abord la salle de bain, puis la cuisine. La cuisine, ça a été aussi quelque chose d'important. Donc, on a commencé par changer, comme la lessive, hein, le liquide vaisselle. On a toujours un lave-vaisselle qui fonctionne maintenant du coup avec des produits qu'on achète en vrac. Et puis, bien tout ce qui est alimentation. Donc, tout ce qu'on peut acheter au magasin en vrac, on achète au magasin en vrac. Puisqu'on peut pas, ben, on l'achète en grande surface. Je pense qu'une autre chose aussi, ça a été vraiment parfois des petits détails, par exemple. Pour faire cuire l'eau des pâtes, ben, on ne met plus l'eau dans la casserole sans couvercle en attendant qu'elle chauffe, parce que ça consomme un tout petit peu plus d'énergie de faire ça. Donc, on met dans une bouilloire, on fait chauffer l'eau, puis après, on met dans la casserole, on met tout de suite le couvercle. Et ça, c'est des choses dont on n'avait pas du tout conscience avant. On a vraiment fait un petit détail après un petit détail.
Mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Si on fait tout d'un coup, on peut être découragé parce que c'est très difficile. Et le faire petit à petit, ben, c'est ce qui revient le plus souvent.
Oui, et puis c'est pas forcément des changements drastiques. Il y a des changements drastiques, et drastiques, je mets des guillemets, comme fabriquer sa propre lessive ou l'acheter en vrac, mais il y a des changements de la vie de tous les jours, comme mettre un couvercle sur les pâtes quand l'eau chauffe, quoi.
Exactement, je pense que c'est un petit peu effrayant aussi pour les gens qui se disent, voilà, maintenant je vais faire des changements dans ma vie, c'est-à-dire je dois faire tout d'un coup. Comme disait, nous, ça fait 8 ans qu'on le fait et on continue de faire des changements. Et je pense qu'on va continuer encore longtemps avant d'être... Je pense qu'on ne sera jamais au top. Je pense que ce n'est pas possible de tout faire parfaitement.
Tout à fait.
Alors justement, donc à côté de tous les efforts, est-ce qu'il y a peut-être certains aspects de ta vie qui sont moins écolos que d'autres ?
Alors, j'en vois deux. Il y en a un qui est vraiment au quotidien et un qui est beaucoup plus ponctuel. Celui qui est plus ponctuel, c'est ce qui concerne les voyages. Alors, c'est clair que, voilà, on aime beaucoup voyager. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'histoire de notre couple. On a eu la chance, quand on était plus jeune, il y a à peu près 10 ans, de pouvoir faire un voyage autour du monde. Donc là, en l'espace d'une année, on a pris 6 ou 7 fois l'avion.
Oui, voilà, donc ça, c'est pas trop
écolo. Les autres déplacements, on a fait en train ou en car. On s'est beaucoup déplacé en car, en train, en bateau, à dos de cheval, de chameau, etc. Mais on a pris, 7 fois l'avion en une année. Alors ça, c'était il y a 10 ans. Depuis, on a pris plusieurs fois l'avion. Je dirais une fois par année depuis. Donc ça, c'est ponctuel, c'est une fois par année. Après, dans le quotidien, moi personnellement, donc j'ai pas de cantine au travail et j'ai la possibilité d'aller acheter à manger pas trop loin de l'entreprise où je travaille. J'aimerais, et ça c'est, je disais, voilà, les changements sont en continu. Un changement que j'aimerais faire dans le futur, c'est de pouvoir apporter mon propre repas au travail. Pour l'instant, je le fais pas, parce que ça demande une organisation, ça demande de le transporter avec moi dans le train, ça demande, c'est pas très gros, mais quand même, ça demande une certaine organisation et surtout du temps pour préparer mon repas le soir pour le lendemain midi. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas encore à faire. J'aimerais, mais j'arrive pas. C'est vrai qu'il y a des fois où j'ai pas forcément le temps de sortir pour chercher à manger, et là, je vais commander à manger. Alors ça, c'est un peu catastrophique.
Ouais, ça, c'est...
catastrophique à mon échelle, mais c'est difficile.
Au niveau des déchets.
Changer ça, mais voilà, au niveau des déchets, c'est assez catastrophique. Il y a beaucoup de plastique et ça implique beaucoup de déchets. Et c'est un livreur qui va prendre... Alors, les livreurs sont à vélo maintenant. Avant, ils étaient en scooter.
C'est déjà mieux.
À vélo. Donc voilà, ça a déjà pollué beaucoup moins en venant avec son vélo. Mais avant, les livreurs étaient à scooter. Donc, chaque fois, c'est un livreur qui vient avec des emballages plastiques me livrer un repas et qui pollue en chemin. Donc j'essaie de le faire le moins possible, j'essaie d'aller à pied chercher mon repas, mais ça c'est quelque chose qui reste encore compliqué dans le quotidien.
D'accord. Mais on voit que malgré tous les efforts qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, on peut pas tout changer d'un coup, on peut pas penser à tout. Et mais les voyages, je sais que toi vous avez beaucoup voyagé avec ton mari. Et vous continuez de voyager, mais maintenant avec cette conscience écologique, il vous arrive de modifier votre façon de voyager.
Oui, tout à fait. Alors maintenant, on peut voyager en train. Alors, on peut pas aller, jusqu'en Indonésie en train. Parce
bien
que
sûr.
On y grille tout le temps de vacances juste en trajet, donc ça fonctionne pas. Mais on peut aller finalement relativement loin en train maintenant avec les trains de nuit. En particulier, qui sont pour la plupart très très bien conçus, où vous avez vraiment une chambre avec une salle de bain dans le train.
Ah ouais.
Donc oui, donc c'est pas si inconfortable que ça en a l'air, en fait. On n'est pas assis toute la nuit à essayer de dormir de manière très inconfortable. Maintenant, il y a vraiment des trains avec des couchettes et carrément une salle de bain dans la cabine.
Excellent.
Je dirais que finalement, c'est rigolo de prendre le train de nuit comme ça pour aller quelque part. On fait 12, 18 heures de train et on dort dedans. Franchement, c'est rigolo. Ça fait partie du voyage.
Tout à fait. Oui, parce qu'il faut arrêter de vouloir traverser le monde en quelques heures. Le voyage fait presque aussi partie des vacances. Alors maintenant, c'est vrai que ça prend du temps sur les vacances sur place, mais ça peut faire partie du voyage à part entière.
Et c'est vrai que vous n'avez pas encore d'enfants, donc c'est tout de suite plus facile de voyager de cette manière quand on est un couple. Est-ce que tu penses que quand vous aurez des enfants, vous essaierez de faire des voyages en train ?
Alors, n'essaiera peut-être pas avec un enfant en bas âge. Enfin, voilà, j'ai pas l'expérience de ça, mais personnellement, je pense que c'est plus compliqué de le faire avec des enfants en bas âge quand on doit trimballer les couches, les petits pots, le lit parapluie et tout ça. J'imagine certaines de mes amies qui devraient faire ça. Je pense que ce serait compliqué. Après, avec des enfants plus grands, comme je disais, c'est plutôt marrant de dormir dans le train, ouais, parce que les enfants, à partir de... Je sais pas, je dirais à partir de 7 ans, comme ça, c'est une aventure d'aller dormir
clairement.
Dans le train.
Tout à fait.
Et puis, c'est aussi l'occasion de faire beaucoup de rencontres dans le train. Parce que, on va au wagon-restaurant, tout le monde finalement fait à peu près le même trajet, on va découvrir des choses, on voit aussi des paysages différents. Voilà, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres en chemin.
Ok, super.
D'accord, très bien.
Et alors, est-ce que vous avez prévu quelque chose en particulier cet été ?
Alors, cet été, c'est compliqué avec le Covid. Donc, on ne sait pas. On part en vacances dans 2 semaines et on n'a toujours pas la moindre idée d'où est-ce qu'on va aller. C'est entre l'Italie ou la Suisse. Donc, dans ce cas, ce serait plutôt un voyage en voiture. Voilà, c'est un peu l'entre-deux entre l'avion et le train parce qu'on vise de bouger pas mal. Et éventuellement d'aller aussi en montagne. Et c'est quand même pratique d'avoir la voiture pour aller en montagne. Et on va prendre nos vélos avec nous pour faire du vélo sur place.
Ça, c'est chouette.
Donc, comme je disais tout à l'heure, avec poussette, hyperapplique, etc., là, nous, on verra aussi pas mal de trucs à trimballer. Et je pense qu'on sera content d'être en voiture.
D'accord, très bien.
Eh ben, c'est parfait.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. De très belles vacances à vous deux et plein de bonnes choses pour la suite dans cette vie écolo qui est sans cesse en changement.
Merci beaucoup.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Il est temps maintenant de faire une pause musicale. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter la chanson Petit Carré de Jonas qui parle du chocolat suisse qui... malgré le fait que ce soit un produit national, est fait à partir d'ingrédients qui viennent d'outre-mer. Et dans cette chanson, il y a la problématique du respect de l'agriculteur en Amérique du Sud ou en Afrique. Et le tout est teinté d'une mise en garde sur le respect des humains.
Selon l'angle où on te regarde, petit carré, ça ne tourne pas rond quant à tes racines. On t'associe toujours à la zone alpine. C'est marrant, j'ai jamais vu de cacaoyer. Petit carré, quelles sont tes origines? Raconte-moi ton arrivée jusqu'ici. Serait-ce une cale de bateau qui te turlupine? Une histoire cachée tout au fond des abîmes. L'Atlantique se souvient peut-être d'une époque où l'ébène s'obtient pour des indiennes. En fait, tissu helvétique de belles fabriques. Puis l'ébène se troque et compte la graine magique. Désolé si je croque dans les tabous, mais le monde est tabou depuis le temps qu'on les scroque. Par vanité, petit carré, tu es métisse, enfant d'un crime contre l'humanité. Petit carré, à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, tu pourrais demander pardon. Petit carré, à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, j'aurais pu m'en tenir au premier couplet. Quand le lait et le cacao s'accouplaient pour la première fois, mais l'histoire se répète. Autre contexte dans un autre endroit. Cette fois, on reste en Afrique de l'Ouest. La course au fric ne lâche pas plus de lest. On a varié les pratiques et quant aux lois, une éthique d'apparence, vu que l'humain a des droits.
Au port, les entreprises amassent les graines. Y a un prix fixé et des intermédiaires. Alors ça débite les enchères et au début de la chaîne, vu à combien ça achète, on se débrouille à peine. Et ces enfants dont on fait trafic, fausses promesses aux parents des pays limitrophes. Les planteurs payent si peu qu'ils ne s'en tirent pas. Sommeil un brin d'espoir dans ces paires de petits bras. Petit carré à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, tu pourrais demander pardon. Petit carré à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, petit carré. Carré, remède à la déprime, dit-on. Y a comme une fausse note cachée dans les demi-tons, dans les milliers de tonnes, derrière les milliards, des mômes privés d'avenir, petit carré corbillard. Ne venez pas me dire que l'on fait ce qu'on peut, mesdames, messieurs les pilleurs, pour qui l'humain compte peu. Des chiffres et des aides consomment, le but du jeu, que le compte soit bon, qu'on amasse des sommes. Je viens du pays où Nestlé, gens riches et polis, mais dont le cœur a caillé. Une démocratie qui barille, calbo au rôle, qui se dit neutre, c'est presque trop drôle, mais c'est pas le cas. Encore des efforts à faire, deux, trois étranges affaires à sortir du caca. Oh, au goût triangulaire, à l'arrière-goût amer, dont on n'a rien à carrer, petit carré. À l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond, petit carré. Tu pourrais demander pardon, petit carré. À l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond, petit carré, petit carré.
Cité Genève.
C'était Petit Carré de Jonas. Nous sommes de retour dans Genève Côté Nature, l'émission de l'association Nariès. Aujourd'hui, nous sommes dans un côté astuce et nous sommes allés discuter avec des familles qui essaient d'avoir un quotidien plus proche du respect de l'environnement. On a entendu tout d'abord Fiona qui essaye petit à petit de faire des changements dans son quotidien pour le rendre plus écologique. Et nous passons ensuite à la deuxième famille qui a répondu à notre appel, la famille Massel. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter un petit peu?
Voilà, et ben, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants. On habite à Tonnet. Mon mari est d'origine péruvienne. Voilà, et je travaille dans l'enseignement.
Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on va t'interviewer toi, mais tu es accompagnée de ta fille Isabelle. Isabelle, quel âge tu as?
Je vais avoir 16 ans, non pas longtemps, et je suis là pour accompagner ma mère qui est interviewée.
Ok, parfait. Alors, Véronique et ta famille, donc on s'est rencontrés quand vous étiez un petit peu moins nombreux qu'aujourd'hui, quand on a fait une fête de la nature, et c'est vrai que ça nous avait tout de suite marqué que toute la famille était plutôt sensible à la nature et à l'environnement. D'où est-ce que cette conscience environnementale vous vient? Est-ce que ça vient de toi qui as su transmettre ou plutôt dans l'autre sens?
Alors, c'est vrai que moi j'ai grandi dans une ancienne ferme au bord du Rhône. Donc c'est vrai que j'étais tout le temps dehors en fait avec mon chien. Donc je pense que j'étais vraiment dans cet environnement-là où j'étais très bien. Mais puis aussi mes parents, ils m'ont transmis, ma mère surtout, ce respect de la nature, ce respect... des animaux, donc je pense que ça c'était déjà très imprégné depuis petite. Et puis ma maman elle avait un jardin potager, on mangeait ses légumes, donc voilà, on avait déjà un lien assez fort avec ça. Et puis c'est vrai que j'ai retrouvé ça chez mon mari qui lui vient d'une famille d'agriculteurs au Pérou, d'où voilà, le lien à la terre était très fort parce que ben ils cultivaient leurs champs,
ils avaient leurs animaux,
voilà, un jardin potager, donc le lien était déjà aussi très fort. Donc je crois que c'est assez naturellement que finalement on a transmis ça à nos enfants en fait.
D'accord. Dans quel domaine est-ce que ton quotidien est le plus axé écolo?
Alors je pense que c'est surtout dans le domaine des transports, c'est-à-dire que on est beaucoup à vélo. Enfin, je fais essentiellement mes trajets en vélo. Je travaille à l'autre bout de la ville, sur pas très loin de l'aéroport, et je fais tout à vélo depuis
Tournai. Wow.
Et d'une manière générale, hein, pour aller faire des courses ou comme ça, vraiment le vélo, c'est voilà, c'est très présent.
C'est bien. Et voilà. Toute la famille.
Et
chez les enfants aussi, quand vous venez au local de Dariès.
Voilà. Donc, maintenant que tout le monde est équipé vélo, c'est
plus simple. Maintenant que j'ai un vélo, moi, j'aimerais aller tous les jours à l'école en vélo. Mm-hmm. Je suis vers plein palais. Du coup, cette nouvelle, cette rentrée, c'est mon objectif.
Très bien.
Ah, exactement. Et puis, Louis, le plus jeune, on va en vélo tous les matins à l'école aussi. Donc, voilà.
Ah ouais, génial. Et est-ce que c'est un énorme effort chaque jour ou est-ce que c'est devenu normal ou est-ce que tout le monde rechigne à prendre le vélo le matin?
Ah non, je crois que c'est quelque chose de...
C'est agréable.
Très agréable et aussi, je pense que c'est... Enfin, moi, j'arrive au travail, je suis oxygénée, j'ai eu le temps de me réveiller. Enfin, on a une autre énergie que si on va en voiture.
Tout à fait.
Je vais aussi de temps en temps en voiture parce que j'ai des courses et j'ai de grosses choses à transporter pour l'école où je travaille. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, c'est autre chose, quoi. On est stressé, je sens vraiment la différence en arrivant. Puis ça fait un bien-être pour les heures qui suivent, en fait.
Tout à fait.
C'est chouette.
Puis c'est pas, ça prend pas tant de temps de plus que ça.
Non,
quand on voit les bouchons qu'on peut avoir, surtout en allant à plein palais ou à l'aéroport.
Ouais, à l'aéroport, mon
Dieu. En fait, c'est pas...
En fait, c'est presque équivalent, finalement, en temps. Ouais.
Et alors, ta voiture, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste au garage la plupart du temps ou...
Assez régulièrement, ouais. On la prend pas très souvent. Là, c'est vrai que plus souvent, ces temps-ci, je l'ai prise plus souvent parce que j'avais un problème aux jambes et puis le vélo, c'était un peu compliqué.
Évidemment.
Donc là, c'est vrai qu'on l'a prise un peu plus, mais maintenant, j'ai quand même aussi repris le vélo. Alors, je suis contente.
Et je sais que tu fais quelques courses en France aussi, donc tu utilises le vélo pour aller faire tes courses ou la voiture?
Ça dépend un peu où on va. C'est-à-dire, si on va en France voisine, sur Ville-la-Grand et par là... C'est vrai que les distances sont quand même un peu plus grandes, mais on va pas si souvent que ça. Enfin, c'est pas du tout régulier, du tout.
Non, d'accord.
On reste plutôt en Suisse pour nos courses.
Et toi, Isabelle, est-ce qu'il y a un autre domaine dans lequel tu fais plus ou moins des efforts?
Oui, j'essaye pour les habits de pas acheter dans les grandes enseignes, de privilégier les Emmaüs, tous les petits magasins de seconde main. Et puis. Je sais que quand mes frères et sœurs étaient plus jeunes, tout ce que j'avais, c'est la chaîne.
Ça se passait de l'un à l'autre, ouais.
Et que maintenant qu'on est grand, bah, chacun un peu ses avis. Et c'est un domaine où je sais qu'on peut s'améliorer en privilégiant justement ces magasins-là.
À faire, comme dans n'importe quel domaine on peut.
Voilà, c'est ça, comme les jouets, d'autres choses.
Tout à fait. Voilà. Depuis qu'on se connaît, on s'est aussi vu plusieurs fois pour des activités auxquelles vous êtes venus participer dans le local Nariès. On a fait des cours d'éco-couture ensemble ou des cours de cosmétiques. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces activités? Je sais qu'Isabelle, tu étais aussi intéressée parce que vous êtes venus ensemble plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous a attiré?
Moi, je dirais de faire les choses différemment parce qu'on nous a toujours présenté les produits cosmétiques déjà finis. Et je trouve hyper intéressant du coup de pouvoir les faire simplement et de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur la peau.
Tout à fait.
Et de aussi juste faire, bricoler, faire de nouvelles choses.
Oui, c'est sûr qu'il y a un côté ludique assez sympa à les fabriquer soi-même.
Oui, à côté de la problématique, qu'est-ce qu'on met sur sa peau, comme tu le dis.
Tout à fait.
Fabriquer, c'est sympa. Et pour l'éco-couture aussi, vous étiez intéressée à avoir vraiment des objets réutilisables et pas jetables.
Ouais. Ça, on a gardé les petites lingettes.
Ça va avec la problématique des déchets en général. Ouais. Du coup, ça va avec, je dirais.
Tout à fait. C'est vraiment une conscience qui est dans toutes les générations, dans cette famille, quoi, cette conscience de la nature.
Après, il y a quand même cette difficulté du quotidien quand même. Bon, dire, bon, des fois, c'est pratique d'aller acheter des choses et des fois, c'est plus intéressant de faire soi-même. Enfin, on est toujours un peu entre les deux, disons.
Bien sûr.
Juste mieux, quoi.
Alors, on voit que dans la vie de tous les jours, donc, vous avez déjà une vie un peu éco-responsable avec toute la famille. Est-ce qu'il y a d'autres aspects un peu plus difficiles, voire impossibles à changer, qui demanderaient trop de sacrifices ou qui seraient juste trop difficiles?
Je pense que les difficultés qu'on a actuellement, c'est déjà, quand on achète des aliments, c'est les emballages, en fait, plastiques qui sont là. Et c'est vrai que, sur le magasin, j'y pense pas forcément, mais quand je reviens à la maison, je me dis, mais c'est incroyable, c'est quoi tous ces emballages, je vais en faire quoi, pourquoi, enfin. Donc, je me fais un peu avoir à chaque fois, en fait. On va dire ça comme ça. Mais ça demanderait de changer ses habitudes, de changer sa manière de penser les courses.
En soi, je dirais que c'est pas difficile, mais il faut juste le faire.
faut se lancer.
Oui, faut, ouais, passer.
Ouais, faut arriver à passer un cap pour le faire. Ouais.
C'est ça, ouais. Et de d'aller dans les magasins, on peut acheter en vrac, de voilà, enfin, de vraiment changer ça en fait. C'est très pratique, c'est à côté. Ah ben non, alors comment est-ce qu'on peut faire ? Donc vraiment, ça demande une réflexion plus en profondeur, je pense.
Ouais. Tout à fait.
Ça. C'est pas impossible, hein, mais non. Ça veut dire qu'avec 4 enfants, voilà, on travaille tous, donc il faut repenser vraiment les choses, en fait.
Complètement.
C'est ça.
Et au niveau des aliments que vous achetez, donc de par l'origine péruvienne de ton mari, je sais que vous consommez pas mal de fruits tropicaux, donc c'est pas tellement de saison. Mais est-ce que voilà, qu'est-ce qui pose problème ? Est-ce que vous arriveriez à vous en passer ?
Alors il y a plusieurs fruits tropicaux, la papaye, les bananes aussi, mais ou les mangues, ce genre de fruits. Mm-hmm. C'est vrai que mon mari, il a eu l'habitude au Pérou d'en consommer très régulièrement, parce que au Pérou, en fonction, il y a de tout, tout le temps, toute l'année, il n'y a pas de saison vraiment, donc si c'est tout le temps à disposition. Donc pour lui, c'est assez compliqué, cette histoire de saison, de c'est le moment, de tel fruit. Mm-hmm. Alors qu'avec les légumes, comme il a un jardin potager, ça c'est quelque chose qui l'intègre vraiment. Mais les fruits, c'est vrai. Donc on fait des fois, on fait des compromis, on essaie de pas acheter tout le temps, mais en même temps, c'est vrai qu'il
c'est difficile.
Il réclame lui régulièrement parce que ça fait partie de sa culture.
Bah oui, mais c'est ça, comme on dit toujours, ça sert à rien de se fustiger parce qu'on fait des erreurs. Vous faites déjà beaucoup d'efforts, j'ai l'impression. Donc voilà, s'il y a un domaine dans lequel vous arrivez moins à faire des efforts, je veux dire, c'est pas grave. Le mieux est l'ennemi du bien, on dit toujours. Autant faire correctement des efforts très réguliers. Là, votre histoire de voiture et de vélo, c'est quand même quasiment toute l'année que c'est le cas. Si de temps en temps vous achetez une papaye, je pense que ça va, quoi.
Et pour finir cette discussion, Véronique, quel conseil tu donnerais à nos auditeurs qui aimeraient se passer de voiture, qui n'arrivent pas à passer le cap?
Notamment les jours où il fait mauvais.
Notamment les jours où il fait hyper mauvais. Qu'est-ce que toi, Isabelle, et toi, Véronique, vous donneriez comme conseil?
Moi, on en discutait, et puis je trouve qu'il faut aller petit à petit, mais dans la régularité. Parce qu'il y a aussi les trains qui sont à disposition.
Tout à fait, tout à fait.
Du coup, peut-être aller en vélo jusqu'à une gare et faire le reste du chemin avec un train, ou aller les jours où il fait beau. Et après, voir les jours où il fait moins beau. Puis aussi, tu disais l'équipement, ou bien d'être équipé.
Ouais, je pense être bien équipé, c'est pas mal, quoi.
Ça, c'est vrai que si on arrive en étant détrempé, ça va nous dégoûter pour la prochaine sortie sous la pluie.
Voilà. Donc, faut y aller petit à petit, faut y aller quand il fait beau, quand on est motivé. Et puis, les fois où il pleut, si on prend le tram ou le train, voilà, c'est pas... ou la voiture, mais ça fait partie de petit à petit. Puis, à un moment donné,
on a
l'habitude, et puis ça devient moins important, la pluie.
Tout à fait. Eh bien, on en prend bonne note et on espère que ça motivera d'autres auditeurs à faire pareil.
Vu que c'est notre dernière émission avant l'été, qu'est-ce que vous avez comme projet pour l'été ? Est-ce que vous avez des plans écolo ou cet été pas du tout ? Ou qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors, cet été, on est pas mal par là, quand même. Les enfants ont plusieurs activités finalement pas mal en lien avec la nature, parce que... Mes enfants vont aller en montagne, dans la forêt aussi, des centres aérés forêt. Tatiana, elle a fait de la grimpe aussi. Enfin, c'est assez nature aussi.
Ouais. Et du coup, local.
Finalement, c'est plutôt en Suisse et par là. Et on va aller un peu au chalet. Mais sinon, on reste par là.
Super.
Très bien.
Merci beaucoup à vous deux.
En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Et on espère vous voir très bientôt avec toute votre smala à une activité nariaise. Dès qu'on pourra aller reprendre normalement en septembre, on espère.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
La dernière famille que nous allons rencontrer aujourd'hui vit à Neuchâtel et ce sont les Billot. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors Catherine, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ?
Oui, alors je m'appelle Catherine, j'ai 3 filles, dont des jumelles, qui font du cirque avec d'autres jumelles. Et puis on vit tout près de Neuchâtel, en fait, dans un petit village tout chou, mais avec très peu de transport public. Donc on est un peu embêté à cause de ça.
Donc excentré par rapport au centre de Neuchâtel.
Exactement. Et puis peu de moyens d'y accéder sans voiture. D'accord. Donc c'est un peu compliqué des fois.
D'accord. Alors voilà, justement, on va parler de ça petit à petit. Alors nous, justement, on se connaît depuis bien longtemps parce que tes filles font du cirque avec nous depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure où elles ont grandi, on a un petit peu suivi votre vie et on a discuté de plus en plus du mode zéro déchet que vous essayez, on le sait, d'avoir dans votre quotidien. D'une manière générale, de quels objets jetables vous avez réussi à vous passer ?
Beaucoup de choses en fait. Donc typiquement, tous les produits de nettoyage, on les fait maison.
Trop bien.
On achète beaucoup de choses en vrac, pratiquement tout en vrac. Mm-hmm. Il y a des choses pour lesquelles c'est pas possible, genre le tofu, on le trouve que emballé.
C'est vrai, c'est vrai.
La nourriture pour chats, c'est vrai qu'on a des chats qui sont pas zéro déchet, donc ils aiment pas, ils aiment pas les croquettes en vrac, voilà. Donc ça, on a maintenu.
Ma foi.
On a deux trois petites choses comme du fromage à tartiner, ça qu'on trouve pas en vrac. Mais mm-hmm. en fait, on a plus énormément de choses dans notre poubelle. Donc les fromages, on les achète en vrac, à part celui à tartiner. Le lait, on a des bouteilles qu'on ramène à la laiterie. Donc,
génial.
Voilà. Et
c'est vrai, quand on a lancé l'éco-challenge en début d'année, on en avait discuté et tu nous avais dit qu'en tout cas, toi, le challenge qui ne te faisait pas peur, c'était le premier, celui que tout le monde craignait, celui de un sac poubelle de 35 litres par mois.
C'est vrai, vu qu'on a c'est vraiment un challenge qu'on peut réussir en réfléchissant en amont quand on fait les courses. Et c'est vrai que si vous, c'est une habitude que vous avez chez vous de limiter les emballages, alors ça rend la chose beaucoup plus facile.
Oui, alors que c'est le challenge hyper difficile, surtout pour une famille où vous êtes deux adultes, trois enfants, et bientôt adultes, deux chats. C'est vrai que ça devient compliqué.
Oui, alors c'est vrai qu'à 5 et 2 chats, on arrive à 17 litres par mois.
Waouh.
Ah ouais,
c'est incroyable.
On n'a plus grand-chose.
Ah, c'est pas mal. Et au niveau autres objets du quotidien, je sais que vous avez, dans votre salle de bain, vous avez limité aussi pas mal les produits jetables.
Oui, en fait, tout ce qui est savon, shampoing, on prend des pains de savon, on n'a plus de coton jetable, on a du lavable. Uh-huh. Les produits cosmétiques, on les fait aussi nous-mêmes, donc on a des petits emballages en verre qu'on réutilise.
Ah,
donc,
génial. C'est et c'était difficile ou c'est qui a lancé ce mouvement chez toi ou dans ta famille? L'idée est venue de qui?
Alors les cosmétiques, c'est clairement moi, c'est pas mon mari.
Je veux bien le croire.
Sinon, l'idée de réduire les déchets, c'était lui et moi. Donc, puis on a embarqué les filles.
Donc, et elles ont été réticentes ou elles s'y sont mises gentiment?
Alors ce qui était compliqué, c'était au niveau de ce qui était un peu hygiène intime. Uh-huh. Justement, ça c'était un peu compliqué. Donc finalement, je les ai équipées avec des cups. Puis elles y sont venues gentiment. En forçant pas, ça vient tranquille.
Et finalement, c'est faisable.
Finalement, c'est faisable.
Et puis, avec quatre filles dans le foyer, c'est faisable.
Avec quatre filles, exactement.
Donc, c'est vrai, justement, quel serait le conseil que tu pourrais donner à nos auditeurs qui aimeraient réduire leurs déchets? Par quelle étape on doit passer pour y arriver?
Alors, je pense que là où on remplit le plus sa poubelle, c'est avec vraiment les courses et les achats de nourriture. Mmh. Et je pense que la chose la plus importante, c'est d'anticiper. C'est-à-dire avoir c'est sa ça. Liste de commissions faite, puis se dire, j'ai besoin d'un sac pour la salade, un sac pour les tomates, de prévoir un emballage pour les pâtes, pour le riz, sa boîte, son tube pour les fromages. Donc c'est ça. Puis moi, je prends toujours un ou deux emballages ou un ou deux récipients supplémentaires. Mmh. Au cas où il y a un truc qui me fait envie.
C'est ça. Et moi, je fais ça aussi pour aller au marché. J'ai toujours des beaucoup en plus au cas où j'ai envie de quelque chose.
Et du coup, les pâtes ou le riz, donc c'est effectivement à base de vrac. Parce que comme ça, tu n'as pas d'emballage.
Oui.
Mais la remarque qu'on a souvent, c'est que c'est beaucoup plus cher. Est-ce que tu trouves réellement qu'il y a une différence de prix?
Alors, si on compare avec une qualité bas de gamme, M quelque chose, ou qualité prix, ou je ne sais pas quoi, oui, c'est plus cher. Si on compare avec du bio, des grandes surfaces, non.
Ah ouais, voilà. Donc, tant qu'à faire, autant aller...
On paye un peu plus, mais c'est de la qualité. Autant manger mieux dans tous les sens du terme.
Ouais.
Et sans emballage.
Ouais. C'est vrai que maintenant, on fait partie d'une épicerie coopérative.
Ah, super.
Donc, c'est vrai qu'on achète pratiquement tout. On n'a plus grand-chose qu'on achète à l'extérieur. Donc, c'est bien.
Et puis alors, à côté de ça, évidemment, comme tout le monde, malgré tous vos efforts, il y a des habitudes desquelles on ne peut pas se défaire. Et dans ta famille, on en parlait déjà au début, c'est surtout la voiture.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi c'est vraiment difficile de vivre sans?
Simplement parce qu'on a 7 cars postaux par jour qui desservent le village. Et alors, certains jours, moi, selon mes horaires, j'arrive à faire, mais c'est vraiment compliqué. Donc, on a quand même renoncé à une voiture. Donc c'est vrai que c'est finalement essentiellement moi qui utilise la voiture. Des fois j'en ai besoin pour le travail, pour faire des trajets aussi.
Parce que vous en aviez deux avant?
On avait deux voitures avant.
Okay.
Donc maintenant on a un vélo électrique, des vélos normaux et puis le car postal.
Et c'est vrai que tes filles sont plutôt actives, donc souvent tu cours un peu dans tous les coins de la ville pour les amener.
Oui, ce qu'elles peuvent faire de manière indépendante, elles font, mais une de mes filles fait du violoncelle et c'est clair qu'on ne peut pas se déplacer à vélo
avec un violoncelle.
C'est vrai que vous êtes
aussi une famille de musiciens, ça n'aide pas.
C'est sûr que la musique, ça prend de la place, autant dans le salon que dans la voiture.
C'est exactement ça.
Mais bon, donc vous avez quand même, vous avez des sacrifices à faire, vous avez quand même réussi à faire des efforts.
Oui, donc avec une voiture, on arrive à peu près à se débrouiller. C'est un peu plus compliqué de temps en temps, mais il n'y a pas tant de fois où ça coince, donc c'est pas trop mal.
Ok, bravo. Et alors, avec toutes ces activités et ces déplacements, comment vous prévoyez vos vacances qui vont arriver? Est-ce que vous arrivez à les organiser aussi en mode écolo?
Alors, ça dépend où on va. Parfois, on arrive. Parfois, c'est un peu trop compliqué, mais on a eu fait des vacances complètement en train.
Excellent.
Voilà, c'est...
Ah bah c'est sportif, il faut s'organiser de nouveau, ça voilà. S'organise en amont.
Exactement.
Et cet été, du coup, vous partez où?
On va partir dans l'Oberland bernois.
Là, ah, en train ou en voiture?
C'est pas encore tranché.
D'accord.
On voit les horaires, ce qu'on va faire et si c'est possible, selon où on veut aller, ben... On est un peu coincé, mais
d'accord. Eh ben, on vous souhaite dans tous les cas beaucoup de plaisir pendant vos vacances.
Oui, merci. Un très bel été. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
Oui, merci d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir.
À bientôt.
Comme on a pu l'entendre, avoir une vie et des habitudes écolo, ce n'est pas si simple. Mais même si on n'arrive pas à tout faire parfaitement, il ne faut pas en avoir honte et il faut au contraire être fier des étapes que l'on réussit.
Un grand merci encore à ces trois familles qui nous ont donné un petit aperçu de leur quotidien et bravo pour tous leurs efforts.
C'était la dernière émission de Genève Côté Nature avant l'été. Les quatre prochaines semaines, nous vous proposons des rediffusions. Vous pourrez donc réécouter dans les prochaines semaines le côté passion où on a interviewé Charlotte Ducotter, une spécialiste des tortues.
Le côté vadrouille dans lequel nous vous présentions une promenade dans la vieille ville de Genève.
Un côté astuce où on parlait de quoi faire avec nos animaux en vacances.
Et finalement, un côté science sur l'éthologie, la base de notre métier.
Et voilà, nous espérons que vous passerez de très belles vacances et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle année de Genève Côté Nature.
N'oubliez pas que nous avons d'ores et déjà quelques rendez-vous qui sont planifiés, notamment la sortie nature du mois d'août qui aura lieu en fin août et pour laquelle nous irons voir des escargots et des limaces. Et nous avons déjà posé plusieurs nouvelles dates de cosmétiques et d'éco-couture.
Renseignez-vous, toutes les informations sont sur notre site internet www.naries.ch. Très belles vacances à tous.
Au revoir, bel été.
Genève. Côté nature.